Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire. Et aujourd'hui, pour cette émission, je voudrais évoquer avec vous la question des agrocarburants, puisque la faim existe toujours, elle a diminué, mais elle existe toujours. Aujourd'hui, c'est une personne sur sept, soit 842 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Et une des causes de la faim, c'est la production d'agrocarburants. Cette production se fait au détriment de cultures pour un usage alimentaire. Donc, c'est grave puisque aujourd'hui, une personne sur sept souffre de la faim et donc on ne peut pas trop accepter ça. Les agrocarburants ont été présentés dans nos pays comme une bonne chose. Ils réduisent les émissions de gaz à effet de serre et dans l'agriculture productiviste que nous avons, ils réduisent aussi le surplus de produits agricoles, alimentaires, puisqu'il y avait trop, et vous avez tous vu qu'il y avait à certains moments trop de choux-fleurs, trop d'artichauts, trop de fruits, etc. Bon, donc, eh bien, ça apparaissait a priori une bonne chose que de transformer des zones agricoles pour manger en zone agricole pour faire rouler les voitures. En regardant d'un peu plus près, les choses sont un peu plus complexes. Les agrocarburants ici doivent atteindre 10% de, disons, de ce dont on a besoin pour faire rouler les voitures. Donc, pour atteindre ces 10%, on a dit, eh bien, on va fabriquer de l'éthanol. Pour produire 1,3 calories d'éthanol à partir de betterave à sucre ou de blé, les producteurs européens, c'est-à-dire dans nos pays, doivent brûler une calorie de carburant. Donc déjà, si on doit pour produire 1,3 calories d'éthanol, déjà brûler une calorie de carburant, le compte ne va pas y être, puisqu'au bout de la chaîne, il y aura aussi d'autres affaires. Il faudra transporter, il faudra investir, etc. Bon, admettons que tout va bien. Mais il y a des émissions de gaz carbonique associées. Et puis, surtout, la production d'agrocarburants provoque un changement d'affectation des sols. On convertit les prairies, les jachères, des zones humides, des forêts, en zones de culture. Mais, admettons. Seulement, nous n'avons pas suffisamment de terres pour arriver à réaliser ces 10% d'incorporation d'agrocarburants dans l'essence utilisée dans nos pays. Donc, on va importer. On va importer du maïs, du soja, de la canne à sucre, du colza, mais non pas pour entrer dans l'alimentation, mais pour entrer dans les agrocarburants. Et dans les pays du Sud, c'est une surface équivalente à la moitié de la taille de l'Italie qui doit être consacrée à ce type de culture pour produire des agrocarburants si on veut atteindre le quota de 10% d'agrocarburants dans notre essence à l'horizon 2020. Résultat, les prix agricoles flambent et les personnes qui, dans les pays du Sud, ont vu leur territoire transformé en zone de production d'agrocarburants, sont contraints soit de quitter leur zone et d'aller dans les villes où il n'y a pas de travail, ou bien de vivre comme ouvriers agricoles dans des zones où, antérieurement, ils étaient paysans et pouvaient se nourrir eux-mêmes. Parce que quand ils deviennent ouvriers agricoles d'entreprises qui cultivent industriellement la canne à sucre ou le maïs pour les agrocarburants, eh bien on a besoin de beaucoup moins de monde. D'où le problème, que va-t-on faire de tous ces paysans? Donc, une première question. Deuxième question. Puisque on produit du gaz à effet de serre, comment lutter contre les changements climatiques? Donc, quand il y a des émissions de gaz carbonique, on a des mécanismes de compensation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on autorise la cimenterie ou l'entreprise en l'occurrence qui va fabriquer de l'éthanol, à compenser ses émissions de gaz carbonique en participant à des opérations de reforestation ou bien de maintien des forêts. Tout paraît très bien. Sauf que cette reforestation dans les pays du Sud s'accompagne de contraintes extrêmement dures et que le maintien des forêts dans les pays du Sud, par exemple au Pérou, va faire que la parcelle de forêt où vivaient quelques populations indigènes qui avaient le droit d'y couper un peu de bois pour construire leur hutte, qui défrichaient un morceau d'espace pour se nourrir, n'ont plus le droit de défricher ces parcelles, puisqu'elles sont devenues des sanctuaires de compensation, de reforestation voulue par les pays du Nord. Donc il y a là une supercherie qui fait que le développement durable officiel se fait au détriment des populations du Sud. Alors bien sûr, vous me direz, bah oui, mais elles sont loin. Ça n'est pas tout à fait l'opinion du Comité catholique contre la faim et pour le développement, puisque dans l'Évangile, on apprend que nous sommes tous frères. On va faire une pause musicale et puis on va reprendre un peu plus dans le détail cette question.
Interrompons votre programme par ce flash spécial. Le CCFD, Terre solidaire et formelle, les pays du Sud ne veulent pas être assistés. Ils savent mieux que nous ce qui peut permettre le développement de leur agriculture. Reforestation, accès à la terre, diversification des cultures, leurs projets nous concernent tous. Pourtant, sans votre don, ils ne verront jamais le jour.
C'est aussi grâce à vos dons qu'une terre solidaire se construit ici et là-bas. Donnez sur ccfd-terresolidaire.org.
Reprenons. Alors, nous évoquions la question des agrocarburants en montrant que, en France et d'une façon générale en Europe, utiliser des agrocarburants, c'était utiliser des calories pour fabriquer des agrocarburants et en plus avoir des gaz à effet de serre, au moment même où l'on voudrait verdir l'économie et où on veut maîtriser la destruction climatique par l'émission des gaz à effet de serre. Alors, c'est vrai qu'on avait inventé les mécanismes de compensation. Alors, regardons d'un peu plus près ce que sont ces mécanismes de compensation. On répond à la destruction de ressources naturelles par la protection de quelques morceaux de nature, ou bien en disant, eh bien, nous allons reboiser. Donc, la pollution qui est faite ici, au lieu d'avoir des mesures pour empêcher cette pollution, faire en sorte que, à côté de l'usine ou à côté de la cimenterie, on puisse quand même vivre sans mettre un masque. Eh bien non, on va compenser dans un pays du Sud. Alors, qui est-ce qui y perd? Eh bien, ce sont les voisins de la cimenterie ou de l'entreprise qui polluent au Nord Et puis au sud, ce sont les populations qui voient leur zone forestière préservée, sanctuarisée. Mais est-ce qu'on leur a demandé leur avis? Est-ce qu'on a demandé aux populations de San Martin au Pérou leur avis avant de sanctuariser leur zone, qui fait que, après une opération de compensation, leurs maisons sont incluses dans un périmètre sanctuarisé, mis sous cloche. Donc, si elles y rentrent ou si elles font quelque chose, elles sont menacées d'expulsion, voire d'emprisonnement. Alors voilà un peuple indigène qui ne peut plus pratiquer son agriculture, qui ne peut plus tailler ses chemins, qui ne peut plus construire ses maisons, qui ne peut pas chasser, qui ne peut pas élever ses poules et ses bestiaux dans un enclos d'élevage, qui ne peut pas couper un arbre pour y creuser une pirogue. Donc, voilà des populations qui sont privées de leur art de vivre, alors que les gens qui ont imaginé ces compensations avaient pourtant inscrit que les populations doivent manifester un accord éclairé. Alors on peut dire, peut-être les populations sont d'accord. Alors, en regardant une enquête des Amis de la Terre, on voit que les documents enquêtés au Pérou, en Équateur, au Brésil, sont rédigés dans une langue technique et juridique. Vous savez vous-même, quand vous regardez les contrats d'assurance, vous avez des tas de pages que vous ne lisez pas, et elles sont écrites en tout petit, mais en français. Mais lorsqu'elles sont écrites en tout petit, en français ou en anglais, pour des populations qui vivent au cœur de la forêt amazonienne, vous voyez tout de suite. Ces populations n'ont pas les moyens de se payer un avocat pour en décrypter les contenus. Et puis, comment un chef de village d'Amazonie pourrait maîtriser un document de 130 pages en anglais? Bon, avec en plus les gestionnaires du projet de compensation s'octroient le droit d'exploiter la biodiversité de la forêt mise sous statut de protection, la communauté n'en est pas informée, elle n'est pas rétribuée, et voilà qu'elle n'a même plus le droit d'utiliser ses propres semences. Alors, on nous fait miroiter que, tout de même, les contrats permettent de recevoir de l'argent en contrepartie. Sauf que ils ne parlent jamais clairement des montants que les communautés reçoivent. Les communautés ne touchent pas de pourcentage sur le montant des crédits carbone. Et ce sont les officines du Nord qui font les calculs. Le cadre administratif est décrit avec abondance. Qui a le droit d'entrer dans la forêt? Pour quelles raisons? Sauf que les populations qui étaient et qui vivent dans ce périmètre, elles n'ont plus le droit d'être chez elles. Donc, on les expulse. Ce qui fait que les communautés rurales, ces populations du Sud à qui on dit ce sont des projets gagnant-gagnant, eh bien, ne sont pas tout à fait gagnants. C'est gagnant pour les opérateurs du Nord, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris les mesures de décarbonisation de leur entreprise, de protection de l'environnement, et qu'ils ont financé ce non-respect de la loi sur l'environnement par des compensations qui atteignent les populations du Sud, pas toujours informées de leurs propres droits. On voit donc comment l'agrocarburant et les mesures de compensation concernant l'environnement sont une supercherie. Ceci dit, bonne semaine à tous.